Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous nous intéressons à l'éducation malienne, un secteur qui est vraiment confronté à beaucoup de difficultés. Des écoles restent fermées dans plusieurs localités du pays à cause de l'insécurité et à cette situation s'ajoutent les grèves des enseignants ou des étudiants. Nos invités sur ce plateau, Yacouba Dombélé, secrétaire général de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Mali, Soumana Koulibaly, membre au directoire du collectif des syndicats des anciens signataires du 15 octobre 2016, Dr. Seydou Loua, universitaire. Nos tentatives pour compter un représentant du ministère parmi ses invités sont restées vaines. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Commençons par les grèves des enseignants. Nous ouvrons les débats avec vous, Dr. Loua. Qu'en est-il de la situation ?
Bien, merci beaucoup pour encore cette invitation et surtout pour une émission sur la grève des enseignants. Donc, je viens de constater que nous sommes tous des enseignants ici. Hein. Le secrétaire général de la Fédération nationale des parents d'élèves est un enseignant. Mon camarade ici est un enseignant. Donc, nous sommes, on peut dire, nous sommes sur un sujet que nous connaissons bien. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la grève des enseignants au niveau de l'enseignement fondamental, souvent, très souvent d'ailleurs, au niveau de l'enseignement universitaire, c'est-à-dire à notre niveau, nous avons aussi des grèves. Alors, les grèves à répétition, effectivement, les enseignants sont conscients que ça joue sur l'éducation du pays. Les grèves à répétition, les enseignants sont conscients que c'est une perte pour l'État parce qu'une journée d'école chômée est une perte énorme pour l'État. Surtout si les grèves s'étendent sur plusieurs jours, souvent sur plusieurs mois. Donc, nous sommes conscients de la situation. Mais de l'autre côté, il faut que l'État aussi soit conscient que les enseignants ont des droits. La grève est un droit, effectivement. Et les enseignants, très généralement, ne demandent pas à l'autorité ou aux autorités de décrocher le ciel, de décrocher la lune, en fait. Ce sont les droits, souvent les droits qu'il faut arracher en réalité. En fait, on a droit à des choses, mais pour avoir ces choses-là, il faut gréver. Donc, c'est ce qui est vraiment désolant dans le monde enseignant malien aujourd'hui.
D'accord.
Voilà. Donc, une première idée sur les grèves. Le collègue du syndicat est là pour en parler davantage. En tout cas, ces revendications ne sont pas hors de portée, en tout cas à mon avis, ne sont pas hors de portée du gouvernement malien ou des autorités maliennes. C'est peut-être une question de volonté qui pose problème.
D'accord.
Pas aujourd'hui.
Et vous, M. Koulibaly, qu'en dites-vous ?
Ok, merci Togola de nous avoir offert cette opportunité de nous exprimer par rapport à nos préoccupations. Et nous remercions vivement le studio Tamani pour ce geste. Et si les autres stations ne le font pas, vous le faites. Donc, il est bon qu'on vous remercie pour cela. Alors, pour ce qui concerne les grèves, en tout cas, les causes sont connues. Et les causes sont connues. C'est que, en réalité, mon collègue n'a pas voulu le dire. On a au Mali des préjugés par rapport à ce secteur-là. Et tant que ces préjugés-là ne sont pas nettoyés, alors,
mais quand vous dites préjugés, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oui, je voudrais dire ce que le conscient collectif même a eu à entretenir pendant des années. Et imaginez, depuis le temps d'Alpha, on attendait enseignants contractuels, enseignants vacataires, écoles publiques, écoles privées. Bon, des méthodes qui s'appliquent à l'école publique et qui n'est pas le cas le plus souvent à l'école privée. Donc, une école à double vitesse. Vraiment, c'est des situations qui prouvent à suffisance le mépris que les responsables ont vraiment pour ce secteur-là. Maintenant, pour ce qui concerne les grèves présentes, c'est fondamentalement lié à un manque, bien sûr, de considération à l'égard des syndicats. Parce que lorsqu'un État prend des engagements et ne les honore pas, il va de soi que les gens réclament. Et si vous regardez cette année, nous, nos revendications, sur les 10 points de revendication, nous avions au moins 3 points qui ont déjà fait l'objet d'accords dans le précédent. Et il faut, comme mon camarade Aïe a
dit... Quand vous dites qu'on a déjà fait objet d'accords dans les précédents, pourquoi remettre ça sur la table encore ?
Oui, parce que justement, ces accords n'ont pas été exécutés. Si vous prenez par exemple le point, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous prenez, je prends un exemple sur la finalisation de la situation administrative des sortants de l'ENSU Nouvelle Formique. C'est un accord qui date depuis 2017.
D'accord.
Donc il a fallu qu'on réactive encore ce levier en 2019 pour que l'État prenne ses engagements. Et même là, ce n'est pas tout à fait acquis pour le moment, même s'il y a un accord sur ça.
D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Dembélé, oui. En tant que parent d'élève, représentant de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Mali, quelle est votre observation sur toute cette situation?
Oui, je vous remercie. Le problème, c'est que déjà, je regrette vraiment que le représentant du gouvernement ne soit pas là. Parce que, comme il l'a si bien dit, nous sommes tous enseignants ici. Et les points de revendication que les enseignants ont demandé, ce n'est pas la mer à boire. Hein. Nous, en tant que parents d'élèves, nous souhaiterions que les deux parties s'asseyent, discutent, c'est déjà fait. Nous-mêmes, nous avons assisté à plusieurs réunions. Ils doivent savoir que j'ai fait plusieurs réunions avec eux et avec le gouvernement. Et on n'arrive pas à trouver un point d'accord. Maintenant, ce que nous demandons, parents d'élèves, nous ne voulons pas précisément dire qui a raison, qui a tort. Nous voulons seulement que nos enfants aillent à l'école. Parce que c'est le spectre d'une année blanche qui s'annonce. Et c'est ce que nous voulons éviter. Sinon, nous avons assisté à toutes les revendications. Nous avons eu à faire plusieurs réunions avec les syndicats du 15 octobre. On les a réunis plusieurs fois. Nous avons vu le ministre trois fois, une fois même, nous avons forcé sa porte pour aller le voir. Tel enseigne que la réunion a eu lieu dans son bureau. Bon, qu'à cela ne tienne, mais jusqu'ici, le problème devrait... Nous avons vu le Premier ministre. Moi-même, j'ai fait une demande d'audience auprès du Premier ministre. On a vu le Premier ministre. Le problème demeure le même. Maintenant, on va en discuter. Parce qu'il faudrait bien qu'on en parle. Il y a des points qu'il faut qu'on discute, qu'on dise aux gens, pour que les gens sachent réellement ce qui se passe. Parce que nous-mêmes, parents d'élèves, nous sommes accusés. La population pense que les parents d'élèves ne font rien, ceux qui n'écoutent pas les radios, tout ça, ils disent qu'on ne fait rien, alors que nous sommes au four et moulin.
D'accord. Voilà. Oui. Alors, M. Koulibaly, le secrétaire général du ministère de l'Éducation a affirmé que sur 10 points de revendication, 6 ont fait l'objet d'accord avec le gouvernement. Qu'en est-il de ces 6 points qui ont fait objet d'accord?
Oui, nous avons tous appris comme vous sur les radios de la télévision nationale cette nouvelle, mais je vous informe qu'aucun de nos membres n'y était présent.
Mais qui était là-bas alors?
C'est le cabinet du ministère de l'Éducation, le secrétaire général avec son staff, mais les syndicats n'y étaient pas lors de cette déclaration, je dis bien, je tiens bien à préciser. Mais à ce que je sache, au sortir des négociations, la dernière négociation a eu lieu, séance de négociation a eu lieu hier tout près, et nous comptabilisons 5 points d'accord qui sont les points 1, 3, 4, 8 et 9. Il y a 2 accords partiels et je tiens à préciser ces 2 accords partiels. Et le premier accord partiel, c'est sur l'application d'un décret qui doit attribuer les primes et indemnités de déplacement aux agents. Les autres agents de l'État en bénéficient, mais ce n'est pas effectivement appliqué au niveau de l'éducation. Ça, c'est un accord partiel. Ensuite, nous avons l'élection professionnelle entre les syndicats de l'éducation. Là aussi, c'est un accord partiel. Donc, au total, nous avions 5 points d'accord, 2 points d'accord partiel, ce qui fait, vous faites les deux comptes, vous allez vous retrouver avec 5 points d'accord conclus, mais les 2 autres là sont des accords partiels. Maintenant, les 3 points d'accord et des désaccords, c'est par rapport à la prime de logement, par rapport à la relecture du décret qui détermine les conditions d'attribution d'indemnité des examens et concours et l'accès des anciens fonctionnaires des collectivités aux services centraux de l'État. Donc ces 3 points sont des points d'achoppement auxquels nous n'avons pas trouvé pour le moment d'ici. Et c'est pour cette raison que notre mot d'ordre est maintenu. La grève de 13 jours accompagnée de la rétention des notes, bien entendu. Donc voilà un peu ce que nous avions comme élément au sortir des différentes séances de négociation jusqu'à hier soir.
D'accord. Et à ce propos, oui.
Je voudrais un peu rebondir par rapport à ce qu'il a dit.
Oui, allez-y.
Je ne voudrais pas amener de polémique, mais je m'inscris en faux contre ce qu'il a dit. Parce qu'en réalité, quand ils disent qu'eux ne sont pas au courant, les 6 points d'accord ont été obtenus avec les syndicats. J'étais là. Nous avons fait des réunions avec eux. On est tombé d'accord, on a eu 6 points d'accord. Un point de désaccord et il restait 3 points. Je me rappelle même au cours d'une réunion que j'ai eue, que la fédération a eue avec les syndicalistes, ils ont dit si vous arrivez à obtenir les deux derniers points, c'est-à-dire le point 8 et le point 10, nous sommes prêts à laisser tomber les autres points. C'est dans ces conditions que nous avons été voir le ministre. Oui.
Oui. Par rapport à ça. Parce que là, non, il y a une précision à détail. C'est que je ne dis pas que nous ne sommes pas au courant des négociations.
C'est ce que vous avez dit.
Les secrets des négociations, non. Elle a posé une question par rapport à la déclaration de la télé. La déclaration que M. le secrétaire général a eu à faire passer à la télévision nationale. Nous n'avions pas été associés à cela. Moi, j'ai fait mon intervention dans ce sens-là. Maintenant, les accords qui sont sortis des différentes séances de négociation, nous nous en tenons aux grandes lignes. Les détails des négociations, normalement, ça doit faire l'objet, en tout cas, de secrets de négociations.
Donc, si je comprends bien, vous étiez présent lors des négociations, lors de la déclaration, vous n'étiez pas là.
Pas du tout.
Mais est-ce que...
Oui, allez-y, M. Louaoui. Oui.
La déclaration qui a été faite correspond à l'esprit de la négociation à laquelle vous avez participé.
C'est là où nous avions été
justement
surpris.
C'est là la question.
C'est là où nous avions été surpris. Il a bien fait de poser la question. Parce que, comme je vous l'ai dit, alors, M. le secrétaire général n'a pas daigné bien préciser les accords partiels. Et comme le doyen vient de le dire, les deux autres accords dont lui fait allusion, comme quoi que c'est des accords déjà partiels, mais ce n'est pas d'accord. Ce n'est pas du tout des points d'accord. Que ce soit la prime de logement, l'accès des anciens aux services centraux de l'État, les administrateurs de l'État ont fait des propositions. Mais malheureusement, les syndicats n'ont pas adhéré. Malgré la bonne démarche des conciliataires et malgré tout, nous avions compris que la démarche proposée par l'État ne pouvait pas répondre à ce que nous aspirons. C'est pour cette raison que ces points sont restés des points d'achoppement jusqu'à preuve du contraire. Pour nous, à notre entendement quand même.
D'accord. Voilà. Monsieur Loua, allez-y.
En tant qu'observateur, en tant qu'enseignant, en fait, on doit plutôt s'accrocher sur le fait de discuter, c'est-à-dire tous les protagonistes, les parents d'élèves, les autorités politiques, les autorités scolaires, les enseignants, que tout le monde s'asseye pour discuter des réels problèmes de l'école malienne. Alors, si je dis les problèmes de l'école malienne, il s'agit vraiment de tous les problèmes de l'école malienne qui sont, en fait, je propose une discussion, mais en réalité, ces problèmes sont connus. On connaît les problèmes de l'école malienne. On connaît les problèmes des enseignants de l'école malienne.
Et à ce sujet, je vous propose d'écouter Boubacar Diarra. Il est secrétaire général adjoint des enseignants communautaires du Cercle de Nyono.
Nous sommes des maîtres d'école communautaire. Il y a de cela depuis des années. À peu près 20 ans. Moi, qui parle actuellement, j'ai 20 ans de service. Et je ne bénéficie que de la somme de 25 000 francs de la part de l'État, la subvention accordée. Et la population doit me payer 10 000 francs. Et ces 10 000 francs ne sont même pas payés. Donc, lors de la tournée du Premier ministre à Sirou, à Mopti et à Nyono, il avait confirmé que cette année 2019 serait la fin du programme des maîtres d'école communautaire. Il va prendre toutes les précautions pour pouvoir satisfaire à leurs besoins. Alors, à notre grande surprise, en fin novembre, nous avons vu une liste et sur 576 anciens communautaires du cercle de Nyono, nous avons vu que 8 seulement sont intégrés et nous ne savions même pas sur quelle base la situation a été effectuée. C'est suite à cela que vraiment nous avons eu le cœur un peu chauffé et que nous avons voulu interpréter devant l'opinion nationale et internationale pour que chacun s'engage, pour qu'on puisse trouver satisfaction dans notre doléance. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, ce n'est qu'une seule revendication. Nous souhaitons l'intégration intégrale et immédiate de tous les maîtres d'école communautaire, les maîtres médersa, les CDP, les CAF, etc. Que l'État soit capable pour nous mettre dans notre droit. Nous avons fait beaucoup pour le Mali depuis 1998 jusqu'à nos jours. Il veut dire que nous avons formé des cadres qui sont en train de percevoir aujourd'hui des sommes importantes et que nous continuons à bénéficier des 20 000 francs.
Alors, M. Loua.
Oui, en fait, concernant les écoles communautaires, en réalité, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. L'État prend des engagements, comme il vient de le dire, mais après, ces engagements ne sont jamais satisfaits. L'État a déjà pris la décision de convertir toutes les écoles communautaires en écoles publiques. Moi, je pense que l'engagement a été pris. Peut-être que le processus est lent ou le processus, je ne sais pas à quel niveau se trouve le processus, mais cette décision a été prise et j'espère que, en tout cas, ça verra le bout du tunnel un jour. Alors, ce que je disais, il vient de le dire, ça fait 20 ans qu'il enseigne et sa situation n'évolue pas. Les problèmes de l'école malienne sont connus. Les enseignants revendiquent les mêmes choses depuis plusieurs années, tout simplement parce que l'État donne des accords, point d'accord, mais en réalité, au niveau de l'application, il y a encore des problèmes. On a vu la même chose au niveau des magistrats. On revient avec les mêmes revendications. Et finalement, qu'est-ce que le commun du mortel va penser? On va dire que les enseignants réclament trop. Les enseignants sont gâtés. Les enseignants, on leur donne tout. Alors lui, le citoyen lambda dit qu'on donne tout aux enseignants parce que lui, il se limite au niveau des engagements de l'État. On va dire, on a accordé tel point, on a accordé tel point, alors que ces points ne sont pas appliqués. Sauf que le citoyen lambda ne sait pas si ces points sont appliqués ou pas. Lui, il se limite au niveau des déclarations. Mais en réalité, ces engagements pris par l'État, généralement, reste au niveau des engagements. Au niveau de l'application, on ne voit rien. Et raison pour laquelle ces grèves à répétition, effectivement, sont là chaque année. Au niveau de l'enseignement fondamental, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est la même histoire. Donc, il faut qu'on s'asseye. On n'a pas besoin d'experts internationaux pour parler de l'école malienne. Nous connaissons nos problèmes et nous connaissons les solutions. Ce qu'il faut, c'est tout simplement une volonté politique. Une volonté politique de vouloir sortir l'école malienne de ses difficultés depuis les années 90. Eh bien, nous voyons les produits que nous formons en réalité ne sont pas de qualité, ça tout le monde le sait. Pourquoi nos produits ne sont pas de qualité? Parce que les enseignants sont dans de mauvaises conditions, parce que nos infrastructures ne sont pas de qualité, parce qu'on manque de matériel. Donc on a trop de problèmes, ces problèmes sont connus. Ces problèmes sont sur la table, mais on tourne en rond. Est-ce que tel point est d'accord? Est-ce que tel point n'est pas d'accord? Est-ce que c'est accord partiel? Est-ce que ce sera appliqué ou pas? Il faut vraiment qu'on dépasse. Cette fois-ci, bon, si je dis cette fois-ci, peut-être que ce ne sera pas cette année, mais il faut vraiment qu'on dépasse cette discussion-là et qu'on puisse aller de l'avant.
D'accord. Voilà. Alors, M. Dembélé, après l'analyse de M. Loua, selon vous, le gouvernement prend-il cette grève au sérieux?
Oui, par rapport à monsieur qui vient de parler sur les écoles communautaires, ça illustre le souhait que le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Parce que cette histoire d'école communautaire, il a été décidé de diriger ces écoles communautaires en école communale. Depuis, qu'en est-il? Et même le problème qu'il y a actuellement entre les syndicats et le gouvernement, c'est parce que le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Dans les points de revendication, il y a des revendications qui datent de 2007 et qui reviennent encore. Parce que c'était dans les tiroirs. Oui. C'était dans les tiroirs. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que dans ce pays-là, qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise la vérité.
D'où ma question, si le gouvernement prend-il ces grèves-là au sérieux?
Je ne pense pas, sincèrement. Même si, je ne le pense pas.
Même pas les enseignants au sérieux, en fait. C'est ça la question. Ils ne prennent pas les enseignants au sérieux. Parce que normalement...
Mais qu'est-ce qui explique cela?
Bon, je peux faire une analyse peut-être tirée par les cheveux en réalité. Pourquoi ils ne prennent pas les enseignants au sérieux? Je peux dire parce que tout simplement, ils ne sont pas directement impliqués. Pourquoi ils ne sont pas directement impliqués? Parce que rares sont les autorités qui ont des enfants dans les écoles publiques. Parce que ce sont les écoles publiques qui vont en grève, en réalité. Les écoles privées travaillent. Ce sont les publics qui sont en grève. Et quel est le dirigeant malien aujourd'hui qui a son enfant dans nos écoles publiques? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, lorsque les enfants sortent, peut-être leurs enfants ne sortent pas. Lorsque les enseignants sortent, les enseignants de leurs enfants ne sortent pas. Donc, en réalité, on tourne en rond. Donc, les enseignants ne sont pas pris au sérieux. Et on considère que les enseignants, on leur a donné beaucoup de choses, ce qui n'est pas vrai. C'est vrai, on ne peut pas dire que la situation de l'enseignant d'aujourd'hui est comparable à la situation de l'enseignant il y a 20 ans. Il y a eu des améliorations, ça, personne ne peut le nier. Mais les améliorations ne sont pas effectivement à souhait. Et il vient de le dire, des revendications de 2018, qui étaient déjà là en 2007, mais c'est un scandale. C'est vraiment scandaleux. Donc, il faut que l'État respecte les enseignants. même s'ils prennent en considération les grèves, mais dire les enfants sont en grève, faire des déclarations à la télé, ça ne sert absolument à rien si vous ne prenez pas au sérieux les enseignants qui s'occupent en réalité de l'éducation des enfants de ces pays-là.
D'accord. Oui, monsieur.
Oui, effectivement. Ah, okay. J'aborde dans le même sens que mes deux collègues. Et l'État, on peut même dire, à travers ses représentants, a un réel mépris vers le système éducatif. Moi, je le dis, je mesure entre mes mots, entre guillemets. Parce que, imaginez, depuis octobre, nous avions démarché le ministère de l'Éducation pour obtenir, en tout cas, une audience afin qu'on puisse discuter des problèmes et des préoccupations nous concernant l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire. Mais malheureusement, notre demande a été rejetée. Il a fallu qu'on renouvelle encore cette même demande pour qu'on soit reçu le 30 octobre. Et même là, bon, le ministre n'a fait que quelques 2 minutes et après, il est parti. Alors que lui, il a un pouvoir politique qui peut lui permettre le plus souvent de prendre des décisions ou encore de se positionner par rapport à telle ou telle question. Et justement, par rapport à cette question politique-là, nos ministres ont tendance le plus souvent à se focaliser sur leur rôle politique et en oubliant le rôle administratif. Comme mon collègue a allé dire, l'État doit anticiper sur les problèmes en proposant des solutions, en proposant des perspectives. Imaginez. Depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, bon, à part le régime Modibo Keïta, je n'ai pas souvenance qu'un régime au Mali a eu à réfléchir une politique de l'ancien au Mali. C'est tout récemment, en 2018, en novembre 2018, avec le soutien de l'UNESCO, qu'il y a eu ce programme-là, une politique de l'ancien au Mali. On ne peut pas imaginer ça. Donc, c'est des cas qui prouvent à suffisance que la préoccupation de l'éducation n'est pas au centre des préoccupations de nos dirigeants. Et vu cela, si on ajoute à cela la manipulation aussi du système éducatif, parce qu'on pense que l'éducation, c'est un champ politique, un champ où on peut faire la promotion au cadre de son parti, où on peut facilement maîtriser, les acteurs sociaux pour pouvoir atteindre un certain objectif qui n'a rien à voir avec l'avancée même du secteur. Donc c'est notre analyse en la matière et c'est la triste réalité.
D'accord. Oui, M. Dembélé, vous voulez réagir ?
Oui, en fait, c'est ce que je voulais dire. Il faudrait que l'État respecte ses engagements. Parce que le point de discorde entre les syndicalistes aujourd'hui et l'État, c'est parce que l'État ne respecte pas ses engagements. Parce que tout simplement, des revendications qui ont même été fait l'objet d'accords et qui reviennent, parce que dans l'application, on ne l'applique pas. C'est ça le problème.
D'accord. Alors, je tenais à vous rappeler que vous pouvez réagir sur notre numéro WhatsApp, le 82 99 11 62. Alors, nous allons parler à présent des écoles fermées sur l'étendue du territoire national. Quelle est la situation, Monsieur Loua?
Bon, aujourd'hui, c'est la même situation que 2017-2018. Les écoles continuent à être fermées. Et d'ailleurs, cette année, ça s'est un peu plus rapproché, hein, parce que cette année, il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été fermées à Banamba, par exemple, ce qui n'était pas le cas en 2017. Donc, ça veut dire que la situation s'aggrave, surtout dans le centre du pays, la région de Moti. Donc, en 2018, l'UNESCO et la Banque mondiale disaient qu'il y avait environ 80 000 enfants qui ne partaient pas à l'école, uniquement dans la région de Moti. La région de Gao, la région de Tombouctou, Menaka ne faisait pas partie de ces statistiques-là. Et cette année, il y a la région de Ségou qui s'est ajoutée à ces problèmes-là. Donc, les écoles sont fermées. Les enfants ne vont pas à l'école, les enseignants presque sont tous dans les grandes villes ou sont venus à Bamako ici. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur pour leur vie. Et ils ont raison. Récemment, il y a un enseignant qui a été enlevé lorsqu'il rejoignait son poste à Ténankou. Et jusqu'à présent, on ne l'a pas retrouvé. Donc, ces situations font que, même si les djihadistes ou les présumés djihadistes ne viennent pas, les enseignants désertent les écoles d'eux-mêmes parce qu'ils font des menaces. Si jamais on vient trouver que vous avez envoyé vos enfants à l'école, on va vous tuer. Là, les parents ont peur. Ou bien on vient dire aux enseignants, si jamais on vient vous trouver en train de parler français, la langue française dans les écoles, on va vous tuer. Ça aussi, ça fait peur aux enseignants. Et un enseignant n'a pas d'armes pour se défendre. Un enseignant n'a que la craie et son stylo. Donc, face aux bandits armés, face aux groupes armés, si l'enseignant décide de ne pas aller à l'école, on ne peut pas l'en vouloir. Donc, encore une fois, les écoles sont fermées, les enfants ne vont pas à l'école, et ça, c'est un problème qui sera problématique dans l'avenir. Parce que si les enfants ne vont pas à l'école, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Et surtout, ce sont des zones où l'État n'est pas vraiment représenté. Et est-ce que ces enfants-là ne vont pas aussi tomber dans le banditisme qui va encore aggraver la situation de ces régions? Donc c'est une situation qu'il faut essayer en tout cas de résoudre tout de suite. Il vient de parler d'anticipation. Il faut prévoir les choses, prendre des dispositions pour que ça n'arrive pas. Parce que lorsque la difficulté est là, faire le pompier, c'est très difficile. Donc, essayer d'anticiper, trouver des stratégies pour que les enfants puissent aller à l'école. Parce que si les enfants ne vont pas à l'école, c'est l'avenir même de la société malienne qui est menacée. Parce que même sans les fermetures de ces écoles-là, l'éducation malienne est en crise. Donc, en plus de ces difficultés, on ne sait pas ce que ça va devenir dans les 10 ans, 20 ans à venir.
D'accord. Oui, M. Koulibaly ?
Oui, ça nous préoccupe. L'insécurité au centre, même vers les régions du sud, parce que Kouligoro déjà fait partie, ça nous préoccupe. Et raison pour laquelle nous avions écrit à M. le Président de la République par rapport à l'enlèvement de notre camarade Togo, comme il vient de le dire, pour que M. le Président puisse s'impliquer personnellement afin qu'on puisse retrouver notre camarade.
Et au-delà de cela, il avait été dit que des mesures ont été prises pour faire face à ce genre de situation.
Oui, madame, sur le terrain, tel n'est pas le cas. Partez à Ténégou, c'est vrai, quand un officiel doit rendre visite, on fait le nécessaire pour qu'il y ait un minimum de conditions. Mais après son départ, c'est l'insécurité totale. Et dans cette condition, c'est à l'État d'amener d'abord les conditions de sécurisation de ces lieux. Je vous rappelle que souvent, on a très mal au cœur quand on apprend le plus souvent que ces zones-là sont délaissées. Hein, sans sécurité ni rien. Et comment voulez-vous que l'ancien aille dans ces zones-là pendant que le militaire n'y est pas, le préfet n'y est pas, le gendarme n'y est pas? C'est des problèmes. Et par rapport à cela, nous avions écrit à nos collègues, à nos camarades qui sont dans ces zones, de ne pas, en tout cas, s'y rendre tant que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Et nous tenons à ça. Nous en tenons beaucoup à ça. Et je pense bien que si les plus hautes autorités ont souci de sécuriser les lieux de travail et de sécuriser les grandes villes, il n'y a pas de raison que les anciens ne s'y rendent pour aller exercer leurs devoirs républicains. Parce que l'école de la République, c'est seulement l'école de la République qui peut enseigner en tout cas un modèle aux citoyens. Si jamais nous continuons comme ça, parce que nous avons eu des renseignements comme quoi que les bandits armés ont même transformé certaines écoles en écoles coraniques. Ça, c'est très dangereux pour l'école de la République. Et nous défendons l'école de la République. Nous voudrons quand même que l'État fasse tout pour que l'école de la République subsiste à ces soubresauts-là. Voilà un peu notre vision de la chose.
D'accord. Oui, alors, M. Dembélé ?
Oui, par rapport à ce qu'il vient de dire, moi, je me pose la question si réellement l'État a le souci de l'école malienne, parce que c'est des enfants maliens qui sont là-bas. C'est des enfants maliens. C'est vrai qu'il y a l'insécurité. Est-ce que l'État prend des dispositions pour que l'école soit sécurisée, les écoles soient sécurisées, les enseignants sécurisés ? Ça nous préoccupe, c'est ça notre préoccupation à nous.
En tout cas, même si l'État prend des dispositions, apparemment ces dispositions ne sont pas quand même suffisantes.
Suffisantes.
À la rentrée, le Premier ministre a fait un déplacement dans la région de Mopti. Je ne me rappelle plus le nom du village où il a visité. Ils ont donné quelques kits scolaires aux élèves. Ils sont arrivés tambour battant en disant que tout va bien, que l'école a ouvert ses portes. Mais en réalité, ils sont partis une semaine plus tard, l'école a fermé. Et jusqu'à présent, il y a des écoles qui sont fermées là-bas. Donc ça, ce sont des choses qu'ils ne disent pas à la télé. Mais dès qu'il y a un déplacement des ministres, on fait un grand coup médiatique pour dire à tout le monde tout va bien, mais en réalité rien ne va. Donc ça, il vient de le dire, il faut que l'État malien mette dans ses priorités. C'est dramatique de le dire parce qu'on n'a pas besoin de dire qu'un État doit mettre dans ses priorités l'éducation du pays. On n'a pas besoin de le dire.
Et comme M. Dembélé a dit au début de ses propos, dans cette situation, est-ce qu'on peut dire qu'on tend vers une année blanche?
Si ça continue comme ça, oui, on tend vers une année blanche au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire.
Ouais.
Voilà, si ça continue comme ça. Parce qu'il vient de le dire, il y a des points d'accord, il y a des points de désaccord. Alors, s'ils ont maintenu leur mot d'ordre, ça veut dire que ce n'est pas satisfaisant. Donc, les discussions, les négociations doivent continuer pour éviter une année blanche. Parce qu'une année blanche, je ne sais pas économiquement ce que ça coûte. Ça coûte de l'argent à l'État, ça coûte de l'argent aux familles, ça coûte du temps, effectivement, et de l'argent aux familles, aux enfants. Donc, ça coûte effectivement à l'État. Donc, il faut tout faire pour éviter une année blanche. Et si on fait une année blanche parce que ces revendications ne sont pas satisfaites, l'année prochaine, ce sont les mêmes revendications qui vont venir. Donc, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, mieux vaut éviter une année blanche cette année en essayant de négocier, même si tous les points ne sont pas satisfaits. Les enseignants ne sont pas, comme on le dit, des jusqu'au boutistes. Donc, ce n'est pas la politique du tout ou rien. Mais en tout cas, il faut que l'État montre sa volonté, que l'État puisse convaincre ses enseignants de sa bonne foi pour qu'ils puissent rentrer dans les classes. C'est qui est le souhait de tout le monde, en tout cas, à mon avis.
D'accord. Alors, M. Koulibaly, même si la grève prenait fin, est-ce que vous pensez-vous capable de rattraper le temps perdu pour les enfants?
Bon, nous ne sommes pas des administrateurs scolaires. C'est à l'administration de prendre des dispositions pour cela. Parce que je respecte beaucoup l'opinion de mes deux autres collègues, mais en tout cas, il revient de la responsabilité de l'administration de réfléchir comment sauver l'année et comment ne pas le sauver.
Mais est-ce que des propositions venant des enseignants aussi ne seraient pas l'une des solutions? Mais
du moment où l'État nous fuit dans les débats de négociation, dans les demandes d'audience, comment voulez-vous que nous, acteurs principaux, proposions à ces mêmes gouvernants? Il n'y a pas de cadre qui puisse permettre aujourd'hui de façon formelle aux syndicats de proposer telle ou telle amélioration à l'État. D'ailleurs, lors d'une des rencontres avec la commission éducation de l'Assemblée, les députés ont souhaité à ce que, en réunion de cabinet, que le ministre de l'Éducation associe les syndicats pour qu'ils puissent en tout cas faire des propositions par rapport à telle ou telle préoccupation. Mais si cela n'est pas fait, nous, dans notre rôle, nous limitons à notre rôle de pédagogue, de formateur, d'instructeur. Maintenant, l'administration scolaire de façon générale et l'administration malienne de façon globale doit trouver les moyens, les voies et moyens nécessaires peut-être pour trouver une issue favorable à cette crise.
Mais cette administration-là n'est-elle pas des enseignants également ?
Oui, évidemment, parce que nous ne sommes pas les seuls acteurs du système éducatif. C'est pour cette raison, nous pensons que c'est vrai bien que nous pouvons jouer notre partition dans le système éducatif, mais le gros du travail revient à l'administration. Parce qu'en plus des syndicats, bien sûr, de professeurs et d'enseignants, il y a le syndicat des élèves et étudiants. Il y a aussi d'autres acteurs dans le système éducatif qui peuvent aussi poser des actes compromettant l'année scolaire. Maintenant, tout cela doit être cadré par l'administration, bien entendu. Mais pour ce qui nous concerne, à chaque fois que nous projetons une grève, nous réfléchissons si les 25 semaines de cours qui ont été arrêtées par les instances à la matière sont exécutoires, peuvent être exécutés. Donc, dans ce cadre-là, nous réfléchissons et nous proposons des préavis. Maintenant, lorsque nous sommes en dehors de cela, nous prenons d'autres dispositions pour éviter à ce que nous soyons des acteurs de telle ou telle année blanche, parce que l'année blanche, ce n'est pas notre souhait et nous ne voulons même pas entendre parler du mot année blanche. Nous voulons plutôt que l'État résolve nos préoccupations pour qu'on puisse aller à nos occupations. Ce n'est pas une bonne guerre pour dire que bon, si on n'a pas ça, on ne retourne pas. Non, c'est juste une manifestation de mécontentement par rapport à des situations. Maintenant, si l'État prend ça d'une certaine lecture qui n'est pas la bonne, là, nous sommes désolés de le dire, l'État doit obligatoirement trouver des solutions à ses préoccupations pour qu'on puisse travailler. C'est ça notre analyse de la chose.
D'accord. Voilà. Monsieur Dembélé.
Oui, je comprends ce qu'il dit, mais en réalité, moi, je suis sûr que nous nous acheminons allègrement vers l'année blanche. Parce qu'il l'a dit, il y a 25 semaines où on doit vraiment travailler. Est-ce que ces 25 semaines seront atteintes? Si ce n'est pas le cas, c'est une année blanche.
Et qu'envisage... Oui, allez-y, docteur Loi.
Je pense que si on trouve une solution dans les brefs délais, des solutions dans les brefs délais, l'année peut être sauvée. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai bon espoir que l'année peut être sauvée parce que les enseignants, ils sont assez rodés dans la matière, l'administration est assez rodée dans la matière pour trouver des stratégies pour essayer de combler les brèches. Pour le moment, à mon avis, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Mais pour les classes d'examen, ça commence quand même à faire un peu trop. Les classes de DF ou de baccalauréat, ça commence à faire un peu trop. Mais en tout cas, jusqu'à présent, je pense que l'année peut être sauvée. Voilà, l'année peut être sauvée. Il y a toujours des aménagements que les enseignants peuvent trouver
pour
sauver l'année.
D'ailleurs, c'est pas pour lui couper la parole. Nous n'avons pas commencé l'année scolaire par des grèves, non. Au contraire, nous avons commencé l'année scolaire à travailler pendant plus de 3 mois environ. Et ça, c'est vraiment un signe de bonne foi.
Depuis janvier.
D'octobre en décembre, on a travaillé. En janvier, nous avions travaillé pendant une semaine. Et pendant ce mois-ci, nous avions fait une semaine de travail. Donc, notre bonne foi n'est pas en cause, en réalité. Sinon, dès octobre, on pouvait déclencher les mouvements de grève, mais on ne l'a pas fait.
Et qu'envisage la Fédération nationale des parents d'élèves face au problème?
Bon, nous avons déjà fait un point de presse pour expliquer la situation aux parents d'élèves. Parce que nous sommes une association de parents d'élèves, ici de l'ensemble des parents d'élèves, comme vous êtes parents d'élèves. Nous allons faire des points de presse, expliquer. Mais si ça ne marche, si ça ne va pas, on va faire une marche. Les parents d'élèves vont marcher. Pour expliquer au gouvernement vraiment que c'est une situation intenable que nous ne voulons pas. Parce que déjà, hier, ils sont restés jusqu'à 18h30. Le matin jusqu'à 18h30. En entretien avec eux. Les deux parties n'ont pas pu trouver de solution. Bon. Qu'est-ce que les syndicalistes vont... Est-ce qu'ils vont reprendre? Est-ce qu'ils ne vont pas encore aller en grève? Tout ça, c'est des questions qui nous préoccupent. Parce que vous devez rentrer au mois de mars. Vous n'avez pas eu gain de cause, vous rentrez. Est-ce que vous n'allez pas projeter encore une autre grève? Mais si d'ici là, si le gouvernement prend conscience et veut sauver l'année... Bon, il se décidera à faire quelque chose pour vous.
Bon, de toute façon, la préoccupation des enseignants, c'est sauver l'année. Hein. Ça, les enseignants, ils sont motivés par leur travail. Donc, dans une négociation, lorsque un camp fait un pas vers l'autre, l'autre aussi doit faire un pas vers ainsi de suite. Donc, c'est
mais pour est-ce ça, le cas présentement?
Bon, les enseignants, comme ils viennent de le dire, ont montré leur bonne foi. Hein. Ils ont fait 3 mois de travail déjà, avec les mêmes difficultés. Après, il y a eu des négociations, ils sont rentrés, ils ont fait une semaine, ils ont fait 2 semaines. Donc, ça veut dire qu'ils veulent travailler. Maintenant, de l'autre côté, l'État aussi doit prendre conscience que cette fois-ci, ils sont décidés. Ils sont décidés, peut-être pas à satisfaire tous les points totalement, mais il faut quand même essayer de satisfaire le maximum de points pour que les enseignants puissent accepter de travailler en revendiquant le reste. Donc, l'année peut être sauvée, mais chacun doit effectivement prendre conscience de la situation. Chacun doit se soucier d'abord que la priorité, c'est les enfants. La priorité, c'est l'éducation malienne. Donc, si les enseignants ont compris cela et que l'État ne l'a pas encore compris, il est temps que l'État comprenne que l'éducation est une priorité dans un pays. Ouais. Un pays ne peut pas se développer avec des grèves à répétition. Lorsque l'éducation ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Tout est lié à ça, en réalité. On parle de crise au Nord, on parle de pauvreté, on parle de chômage. Tout est lié. L'éducation est au centre de tout. On parle de problèmes de santé. L'éducation est au cœur de ces problèmes aussi. Donc, si l'éducation est bafouée de cette manière, en réalité, c'est l'avenir du pays même qui est menacé. Donc, l'État doit prendre conscience de cela rapidement, trouver des solutions, en tout cas, faire de très bonnes propositions qui sont dignes de foi pour que les enseignants puissent accepter de prendre la grève.
D'accord. Monsieur Dembélé voulait réagir?
Non.
Ok. Oui, Monsieur Clément.
Oui, nous sommes vraiment très ravis d'apprendre que les parents de là, une fois de plus, sont un peu conscients de la situation qui prévaut actuellement. Parce que je vous rappelle qu'à l'intérieur, déjà, les gens ont déjà pris de l'avance. À Kaï, à Sigasso, les parents de là ont déjà démontré leur mécontentement par rapport à cette situation. Et si à Bamako de telles prises de conscience c'est fait, nous ne pouvons que nous enchanter. Maintenant, ce qui reste à demander aux parents, c'est de ne pas attendre à ce que la situation s'empire pour y réagir. Parce que nous avions compris le plus souvent que nous sommes le plus souvent abandonnés à nous-mêmes. Lorsque nous évoquons des problèmes, les gens pensent seulement aux revendications. Alors que notre objectif, parce que nous avions une vision, comme Nelson Mandela l'a dit, toute action qui ne s'inscrit pas dans une vision, c'est du temps perdu. Nous, ce groupe-là, nous réfléchissons. Les 8 syndicats actuellement regroupés en synergie, nous réfléchissons et nous proposons. Et le plus souvent, toutes nos revendications ont comme objectif d'amener une harmonisation de l'éducation publique et de proposer des citoyens, en tout cas, qui puissent relever la tête demain après demain, qu'ils ont été bien formés au Mali.
D'accord, oui, M. Dembélé.
Non, je voulais simplement réagir par rapport à ça.
Oui, allez-y.
Parce que tout simplement, je pense que c'est l'information qui ne passe. Il n'a peut-être pas les informations, sinon il n'aurait pas dit que, pour une fois, les parents d'élèves. Les parents d'élèves ont toujours été à vos côtés. Toujours. Avant même que vous me fassiez votre revendication, nous avons eu une rencontre avec vous par rapport à ça. Je ne sais pas si vous étiez là-dedans, mais on vous a convoqué à notre siège, à Faladier. Vous n'y étiez pas. Et on a discuté de ça. Quand ils ont déposé leur préavis de grève, je vous dis, on a fait 4 réunions avec eux. Une réunion à notre siège et 3 réunions dans la salle Bakary Traoré du ministère de l'Éducation. Les 6 points d'accord ont été obtenus pendant que les parents d'élèves étaient là. Et je me rappelle, les parents d'élèves, les syndicats ont dit, par rapport à la situation, si vous nous soutenez comme vous l'avez toujours fait, nous sommes prêts à abandonner les autres points. Et on a accepté. Là, c'est Fomba était là-bas.
Oui, je ne vous coupe pas, je suis au courant de ça. Bon,
mais quand vous dites que, pour une fois, les parents d'élèves, non. Les parents d'élèves ont toujours été là, oui, avec vous. Bon, par rapport aux régions, même ce matin, il y a le... Parce que l'association des parents d'élèves est structurée de telle manière que dans chaque région, il y a un bureau parents d'élèves avec un président. Ce matin, j'ai reçu l'appel du président de Ségou, Koumaré, qui m'a dit qu'ils ont une réunion par rapport à ce problème et que je lui ai fait le compte-rendu de tout ce que nous on a fait. À Kaï, il y a Mouadi. C'est-à-dire, il y a des bureaux partout et on nous fait le feedback. On n'est pas resté comme ça, hein. Mais seulement on est en face d'un gouvernement qui ne veut pas. Parce que imaginez-vous, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Parce que nous, on est obligé de forcer la porte souvent. On est obligé de forcer la porte. Même quand je suis venu, j'ai dit il y a un document ici qui n'est pas pour vous. C'est un document que je dois amener à l'ORTM pour lire face à cette situation-là. Parce que nous, on ne ménage pas le gouvernement. Nous sommes avec vous. On l'a déjà dit au cours d'une réunion.
Oui.
Franchement.
Oui, nous avons... Et malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Nous allons demander à M. Loua quels sont les besoins actuels.
Bon, les besoins actuels au niveau des enseignants.
Bien sûr.
Bon, les besoins sont dans leurs revendications. Ils ont besoin actuellement de primes de logement, ils ont besoin de primes de documentation, ils ont besoin au niveau des sortants de l'ENSUP une certaine revalorisation. Donc, les besoins sont connus en réalité. Maintenant, l'État, le gouvernement doit prendre conscience que l'enseignant est l'un des acteurs principaux de l'éducation. L'enseignant est au cœur du tout. Tout ce qu'on décide dans l'éducation, si on ne prend pas compte l'enseignant, c'est comme si on n'a rien fait. Parce que c'est l'enseignant qui est en classe, c'est lui qui est en contact avec les apprenants. Si l'enseignant n'est pas compétent, l'élève ne peut pas être compétent. La compétence de l'élève est liée à la compétence de l'enseignant. Donc si cet enseignant-là revendique des choses pour améliorer sa compétence, l'État ne doit pas lésiner sur les moyens. Ça doit faire partie des préoccupations centrales de tout État qui veut avancer. Nous avons vu les meilleurs systèmes éducatifs, hein. Je peux vous donner l'exemple de la Corée du Sud, l'exemple de la Finlande, l'exemple de la Norvège, je n'ai pas parlé de la France parce que la France n'est pas une référence en matière d'éducation, mais ces pays-là, ils ont mis au centre de leur préoccupation la question de l'enseignant. Ils ont demandé aux enseignants, ils ont besoin de quoi? Les enseignants ont effectivement exposé leur situation et ils ont essayé de satisfaire ces besoins-là. Et les enseignants ont travaillé et le système éducatif s'est amélioré. Et si le système éducatif s'améliore, c'est le pays même qui avance. C'est aussi simple que ça.
D'accord. Alors, M. Koulibaly, si vos revendications ne sont pas prises en compte d'ici le 1er mars, qu'est-ce que vous envisagez d'autre?
Oui, nous sommes en concertation. C'est un groupe Je ne saurais en tout cas dévoiler ce qui se trouve dans les coulisses au niveau du directoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous allons réfléchir et au moment opportun, vous allez être informés des actions futures à entreprendre par le directoire. Mais ce qui est sûr, nous tenons beaucoup, comme mon collègue a le dire, à la satisfaction de nos préoccupations, tant dans les lieux de travail qu'à domicile.
D'accord. Un mot de la fin en quelques secondes, oui, monsieur Dambélé.
Le mot de la fin, c'est que moi, j'en appelle à la fibre patriotique de chacun et de chacune, gouvernement, syndicat, parents d'élèves, élèves et étudiants, pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution.
D'accord.
À ce problème, surtout le gouvernement. Parce que la balle est dans le gâteau du gouvernement. Il faut que le gouvernement trouve la solution.
D'accord.
Je vous remercie.
Et cela met fin à ce débat sur l'éducation malienne. Un grand merci à nos invités. Yacouba Dambélé, secrétaire général de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Mali. Soumana Koulibaly, membre au directoire du collectif des enseignants des syndicats des anciens signataires du 15 octobre 2016. Docteur Sédouloua, universitaire. Et je tenais à vous rappeler que vous pouvez toujours réagir sur notre numéro WhatsApp au 82 99 11 62. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Sedundao. La régie est assurée par Petting Diarra. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de studio Tamani.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba et Dewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mamoudi.
Chenne Berry, Sigi.